Je suis en compagnie de Serge Lehmann, dans sa bibliothèque. Bonjour Serge.
Bonjour.
Ma première question très très générique, nous irons dans le particulier par la suite. Y a-t-il eu des super-héros européens?
Rien que ça déjà, c'est une question qui peut prendre
Du temps.
du temps, oui, du temps, et puis poser toutes sortes de nuances complexes. Définir le vocabulaire, enfin toutes ces choses, c'est un peu fastidieux. On va dire oui. La réponse, c'est oui. Sous réserve d'étendre l'appellation, la catégorie de super-héros à la couche de personnages qui sont issus non plus de la littérature, mais de la bande dessinée, mais de la littérature, parfois aussi du cinéma muet, les premiers sérieux, aussi bien français, allemand, américain. Disons le monde de personnages extraordinaires qui va de la fin du 19e siècle jusque dans les années 30. À ce moment-là apparaissent dans au moins les quatre pays qui connaissent le grand tournant industriel et scientifique de la fin du 19e, c'est-à-dire France, Angleterre, Allemagne et Amérique, et d'une certaine mesure aussi la Russie. Mais c'est un domaine encore très en friche. Apparaissent des personnages qui sont les ancêtres, les pères, les grands-pères des super-héros en costume que la bande dessinée américaine a rendu célèbre. On peut presque dire que la bande dessinée américaine, à partir du milieu des années 30, quand elle commence à devenir une vraie industrie de masse, rend visible des types héroïques. Des personnages, des archétypes qui étaient déposés dans la fiction, pas seulement populaire, depuis des personnages de surhomme qui existaient depuis, disons, le dernier tiers du 19e siècle et dont les deux archétypes sont primitifs, sont le capitaine Nemo et Sherlock Holmes, et dont ensuite toute une série de figures secondes sont venus enrichir les caractéristiques, que ce soit Tarzan, que ce soit Fantomas, que ce soit Doc Savage, que ce soit l'ombre, que ce soit Judex en France, que ce soit le capitaine Morse en Allemagne. Voilà, on a toute une galerie de personnages, plusieurs dizaines, qui sont le substrat des super-héros en costume des années 30. Donc la réponse à ta question, elle est oui, nous avons eu ces personnages. Et donc, à condition de considérer ces personnages comme des super-héros, il y en a eu en France. Nous n'avons pas eu la traduction en images de ces personnages pour des raisons qui restent à élucider. C'est-à-dire que, à partir du moment où la France découvre la bande dessinée moderne américaine, à partir de 1935-36, c'est un choc, c'est parce que jusque-là la bande dessinée française était assez primitive. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les récits sous images, c'est-à-dire une case, mais en dessous du texte imprimé qui décrit l'action dans la case.
Type Bécassine, par
Voilà,
exemple.
exactement, type effectivement les premiers Pieniclet ou Bibi Fricotin, des choses comme ça. Pour les gens et les artistes d'ailleurs de l'époque et les lecteurs qui ont découvert ces bandes dessinées, qui ont découvert Guy Leclerc par exemple, ça reste une expérience dont les derniers lecteurs de cette époque se souviennent encore avec une énorme émotion. D'un seul coup, effectivement, le récit sous image à la française a paru terriblement archaïque, démodé, vieillot. Et la rénovation des formes s'accompagne toujours d'une rénovation des sujets, c'est la même chose. Donc il y a eu, vers 1937-38, l'amorce d'une mutation américanoïde ou américanophile, on va dire, de la bande dessinée française, qui s'est interrompue évidemment avec la Deuxième Guerre mondiale, et d'abord parce que les bandes américaines étaient interdites à l'importation, puis parce que, bon, voilà.
Donc,
Et donc.
les super-héros, notamment par exemple en France, prenaient la forme de romans,
Oui, feuilleton,
de
pour
feuilletons,
l'essentiel,
de feuilletons parus dans la presse.
Paru dans la presse, prépublié dans la presse, et ensuite rassemblé en volume par les différents éditeurs spécialisés de l'époque.
Alors, on peut prendre un exemple, par exemple, le
Oui,
Nyctalope.
c'est le plus célèbre de tous.
Prenons le Nyctalope. Quelle généalogie de ce héros-là? Quelle date? Quel
Alors,
auteur?
ce qui est très intéressant avec le Nyctalope, c'est ce qui le rend si exceptionnel et en même temps si perturbant, c'est qu'il y a une vraie nouveauté dans le Nyctalope. Mais, comment dire? Alors, mais et. Il y a une vraie nouveauté, mais elle est presque tuée par la désinvolture avec laquelle son auteur, Jean de La Hire, la manie. Et en même temps, à force d'étudier la question, je pense que c'est justement parce qu'il était désinvolte qu'il fait du nouveau. Voilà. La généalogie complète, enfin disons l'histoire d'Unictalope et de Jean de La Hire, c'est l'histoire de Jean de La Hire qui est un homme de la fin du 19e siècle qui est issu d'une famille du Roussillon. Je crois qu'il a été maire de Bagnoules à une époque, au moment de sa gloire. D'une famille, bon voilà, de marins, et lui ne joue pas le jeu, enfin il monte à Paris, il veut devenir écrivain. Et c'est plutôt un écrivain moderne au début, c'est quelqu'un qui est plutôt, on dirait, un radical socialiste. C'est quelqu'un qui est anticlérical. C'est pas forcément un homme de gauche, mais en tout cas, disons, il est de ce bord-là. Et c'est quelqu'un qui arrive à percer dans la littérature fin du 19e siècle avec quelques romans naturalistes. Il devient aussi le secrétaire de Willy pendant un moment, le Willy de Colette et Willy. Et donc, il a une présence, une toute petite présence, dans pas très loin des milieux symbolistes. Voilà, bon, mais sans aller très loin dans la... Et c'est quelqu'un, évidemment, pour qui, à partir du moment où il avait décidé de faire une carrière d'auteur, les questions d'argent étaient importantes. Et un jour, l'un des journaux, en 1908, je crois, l'un des grands journaux populaires de l'époque, je ne sais plus lequel c'est, je pense que c'est Le Matin, sur son premier feuilleton, lui propose de faire un feuilleton. Et il fait un feuilleton qui s'intitule « La roue fulgurante », et qui est une sorte de suite apocryphe à « La guerre des mondes » de Wells. En gros, il raconte l'enlèvement de deux ou trois personnages, héros, par ce qui sera appelé plus tard les soucoupes volantes. C'est quand même étonnant. Hein. Donc, il appelle lui « La roue fulgurante ». C'est en 1908, hein, c'est, donc on est encore très très loin de la vague d'OVNI d'après-guerre. Il raconte une histoire d'enlèvement extraterrestre et de gens qui sont projetés sur Mars, sur Mercure, sur Terre. Il y a un télépathe hindou, parce que c'était la grande époque de fusion entre l'occulte, la science, par le biais du spiritisme, de la métapsychique. Donc il y a un télépathe hindou qui arrive à récupérer les gens qui sont sur Mars. Enfin, bon, c'est une aventure spatiale qui a eu un très grand succès. Et du coup, La Hire a renoncé à sa carrière d'auteur honorable pour devenir un des feuilletonistes les plus productifs du milieu français du début du XXe siècle. Je ne sais pas, on compte, sa bibliographie compte 500 ou 600 romans, sans compter les fascicules, les trucs pour la jeunesse, les trucs scouts. Enfin bon, il y a eu une production incroyable. La légende dit qu'il avait 3 dactylos et qu'il dictait parfois dans la même heure un morceau du roman numéro 1, du roman numéro 2. Et puis c'était quelqu'un qui s'auto-plagiait énormément. Quand il n'avait plus d'idées, il découpait un chapitre dans un de ses romans précédents, il changeait tous les noms des personnages et il le glissait dedans. Il disait « j'ai gagné mes 20 pages du jour ». Enfin bon, c'était désinvolte, on va dire, au minimum désinvolte, voilà. Donc il en est là, il se trouve effectivement bénéficier à la fois du succès public, mais pas de l'aura intellectuelle qu'avait H.G. Wells au début du siècle. Wells a été reconnu comme un auteur important grâce à l'influence du Mercure de France. Rachild, même Jarry a contribué à la notoriété de Wells en soulignant le caractère extraordinaire sur le plan conceptuel, de la machine à explorer le temps, de la guerre des mondes, de la fiction darwinienne, enfin voilà, c'est les grands sujets de l'époque. Donc, La Hire s'inscrit avec une certaine intelligence tactique, disons, dans ce courant-là. Il n'en récolte pas les bénéfices intellectuels parce qu'il ne les a pas cherchés, il en récolte une certaine notoriété de feuilletoniste et un grand public. Il fait donc ce premier roman et il en fait un deuxième, intitulé « L'homme qui peut vivre dans l'eau », qui est lui aussi assez influencé par Wells, et qui raconte la création d'un homme requin par un groupe, par une sorte de société secrète qui mélange des prêtres, des biologistes, enfin bon, qui sont à la fois super darwiniens, anarchistes, enfin on sait pas exactement, politiquement c'est très confus, et qui rêvent d'asservir le monde. Voilà. Et il y a donc une sorte de croisade mondiale qui se crée... contre cet homme requin qui fait régner la terreur sur toutes les flottes du monde. L'un des officiers responsables de cette flotte, c'est un commandant qui s'appelle Pierre Sinclair. Dans le roman suivant de Lahire, donc le troisième, Le Mystère des 15, le personnage de Léo Sinclair, fils de Pierre, est introduit sans explication, comme toujours chez Lahire. En fait, il s'en foutait complètement, donc il n'avait aucun souci de chronologie interne, il n'avait aucun souci de cohérence d'un roman à l'autre. Il reprenait ses idées sans faire attention à quoi que ce soit. Enfin voilà, bon, il traitait tout ça par-dessus la jambe. 1911, troisième feuilleton de Lahire dans Le Matin, c'est Le Mystère des 15, et d'un seul coup, il nous présente Léo Sinclair, le nyctalope, l'homme qui voit la nuit, sans expliquer pourquoi ni comment, et qui, en gros, va récupérer sa fiancée, qui a été enlevée par une secte spéciale, bizarre, les 15, et emmenée sur Mars. Et en montant sur Mars, il rencontre les martiens de Wells, il arrive à réunir tout le monde derrière lui, et ils affrontent les martiens de Wells, voilà, c'est bon. Et ensuite, Sinclair redescend sur Terre, et vivra d'autres aventures, en tant que justicier connu dans le monde entier, doté donc de cette vision spéciale, d'un cœur artificiel qui lui aurait été greffé à la suite d'un attentat, et qui le rend, qui lui donne une force sinon surhumaine, en tout cas très grande, qui plus est, il fait des voyages en Inde, dans l'Himalaya, il apprend les secrets de la méditation hindoue, donc il vieillit très lentement, il a besoin de pratiquement rien au niveau physique. Et puis plus ces aventures se succèdent, parce qu'elles se sont quand même, poursuivies de 1911 à 1943 ou 4, avec même des éditions d'inédits dans l'après-guerre. Et Lahire est mort en 56, et jusqu'en 56, vraisemblablement, il a pensé à son personnage, donc c'est quand même un personnage qui a une durée d'existence très très longue. Le personnage du nyctalope devient quasiment un super-héros classique. Donc il a non seulement ses super-pouvoirs, mais il a une très grande fortune suite à son mariage avec une héritière écossaise. Du coup, il finance une organisation internationale de lutte anticriminelle qui soutient les États dans leur défense contre les conspirations anarchistes, puis nazies, puis soviétiques. Enfin bon, il voyage dans le temps, il va sur d'autres planètes, il redécouvre le royaume des Amazones, il a une identité secrète chez les Gitans, il est le maître des forces occultes. Bon, voilà. C'est un personnage de super-héros complet. Il n'a manqué à ce personnage pour passer à la postérité. Alors, si on met de côté le refoulement, qui est encore une question indépendante, il n'a manqué, au fond, qu'une adaptation en bande dessinée. Et c'est là que la différence se fait entre les Américains et nous. Les Américains, dès les années 30, ont récupéré les grandes figures héroïques comparables au nyctalope dans leur propre culture, qui étaient Doc Savage et L'Ombre, deux héros de romans feuilletons, enfin disons, dont les feuilletons paraissaient chaque mois, et on en a fait des personnages de bande dessinée. Et ces deux personnages ont inspiré immédiatement Superman d'un côté, qui reprend pratiquement l'intégralité de la charte de personnages de Doc Savage. Il a une forteresse de solitude dans l'Antarctique, etc., etc. Bon. Et Batman, qui reprend la charte de l'ombre, héros lunaire, obscur, gothique. Cette mutation de l'écrit vers l'image ne s'est pas produite en France.
Est-ce que les aventures du nyctalope, écrites par Jean de Lahire, sont encore lisibles par nous, lecteurs? Ces histoires avaient un grand succès à l'époque. J'ai l'impression qu'elles étaient vraiment lues. Oui. Elles faisaient partie d'une sorte d'imaginaire de l'époque, quoi, pour les lecteurs. Est-ce que c'est encore lisible aujourd'hui?
Objectivement, non. C'est lisible par les fans. C'est lisible par... qu'il faut préciser. C'est lisible. C'est des romans médiocres. Dans l'ensemble, c'est des romans médiocres. Du point de vue littéraire, c'est très très médiocre. Même pour de la... C'est même pas même pour de la littérature populaire. Il y a de la littérature populaire qui est absolument formidable et qui tient très bien le coup. Un contemporain de Lahire est aujourd'hui très célèbre dans le monde des lettres, même si au fond peu de gens l'ont lu, c'est Gustave Le Rouge, à cause de son amitié avec Sandrard, avec le portrait extraordinaire que Blaise Sandrard a fait de lui dans L'Homme foudroyé, à cause de sa présence secrète dans Mort à vagine, enfin bon voilà, et puis Sandrard, même s'il a certainement jolivé le tableau, pour des raisons qui lui sont propres, enfin voilà, a fait ce geste extraordinaire qui était de découper dans un des feuilletons de Le Rouge, le mystérieux docteur Cornelius, sont des phrases particulièrement frappantes, de les assembler en livre de poésie, de faire paraître le livre sous son nom, Blaise Cendrars, poème Kodak, en 1924, et puis ensuite de révéler 20 ans plus tard au monde que c'était pas ses poèmes à lui, mais que c'était du découpage dans les textes de Gustave Le Rouge, pour montrer que Le Rouge était un grand écrivain, voilà. Un grand prosateur, un grand poète, un grand écrivain. Donc ça a été une assez belle supercherie littéraire qui a permis au nom de Le Rouge de résister. Et si aujourd'hui on me dit, est-ce que Le Rouge c'est lisible aujourd'hui, oui, Le Prisonnier de la planète Mars comme Le Mystérieux Docteur Cornelius, qui sont deux romans écrits exactement au moment où Lahire démarrait, c'est aujourd'hui vraiment passionnant. Lahire, c'est pas passionnant. Au niveau texte, il se passe rien, c'est bourré de clichés, c'est souvent très bien. Il y a des moments bienvenus, comme dans tout roman, mais dans l'ensemble, ça paraît incroyable, disons, que cette entreprise littéraire bizarroïde ait tenu 50 ans, voilà, avec succès. Ça paraît vraiment incroyable. Donc je ne recommande pas la lecture des aventures de Nyctalope aujourd'hui, des aventures originales, sinon à fin d'étude ou par curiosité. Mais ce n'est pas un trésor caché. C'est le personnage qui est un trésor caché. Le personnage détaché et son monde, détaché du creuset littéraire dans lequel il est né.
Et alors, on en vient à cette entreprise, Serge Lehmann, avec cette BD en 6 tomes qui s'appelle La Brigade Chimérique, dont tu es un des deux scénaristes, avec Fabrice Collin, dessiné par Jess et mis en couleur par
Céline Bessonneau.
Qui est paru il y a plusieurs années aux éditions La Talente, donc en 6 tomes, dans lequel on retrouve le Nyctalope, qui est un des grands héros de cette BD-là, la Brigade Chimérique, où nous voyons en action un certain nombre de super-héros européens que tu as remis en fiction, que tu as réutilisé pour parler en fiction, mettre en fiction leur fin, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Oui. On va voir qu'il y a tout un sous-entendu théorique très puissant derrière ça. Donc le Nyctalope, tu l'as réutilisé en tant que héros dans cette bande dessinée. J'aimerais comprendre pourquoi tu as réutilisé le Nyctalope et d'autres héros de cette époque-là pour les mettre dans une fiction.
Le Nyctalope et les autres, il faut faire la nuance. L'ambition générale de la brigade, mais il y en a. C'est un livre que j'ai écrit dans l'esprit confus, on va dire. C'est-à-dire, j'essayais d'y voir moi-même clair dans ce que je pensais sur ces sujets, sur d'autres sujets. Le courant principal, c'est effectivement le thème la poutre maîtresse, c'est le thème de la disparition, de la fin des super-héros européens. Donc. C'était un livre paradoxal, puisqu'on voulait remettre en scène un monde qu'on considérait comme digne d'intérêt, et d'autant plus digne qu'il a été refoulé, enfin on ne voit pas d'autres mots. Hein. Il a été refoulé, il a été oublié, le critique François Angeli a eu une très belle expression, il a dit c'est une Atlantide littéraire. C'est-à-dire c'est un monde effectivement qui s'est englouti en l'espace de quelques mois, alors qu'il existait depuis 60 ans, qu'il était assez bien identifié, et plus personne n'en a jamais entendu parler. Voilà. C'est un morceau de continent littéraire et pictural qui a disparu. Et donc on l'explore comme des archéologues. Donc on voulait à la fois faire remonter à la surface ce monde, révéler son existence. Le paradoxe étant que son existence n'avait d'intérêt que... Comment dire, avait comme intérêt principal de raconter sa propre disparition. Donc on réhabilite cet univers... pour le montrer au moment de son effondrement. Bon, c'était déjà en soi, c'était une entreprise assez inconfortable sur le plan théorique. Pourquoi distinguer le Nyctalope des autres ? Donc il y avait cet arrière-plan où on s'est amusé à jouer. On s'est amusé surtout à mélanger le haut et le bas, disons le noble et l'ignoble. Par exemple, on fait coexister le Nyctalope de Jean de Lahire et Grégoire Samsa de Kafka. C'est-à-dire que la distinction entre haute et basse culture ne nous intéresse pas, justement. C'est une des raisons pour lesquelles cet univers a été oublié, c'est que je pense que les jugements portant sur la haute et la basse culture après-guerre sont devenus, d'une certaine manière, encore plus féroces qu'ils l'étaient avant-guerre. Ils l'étaient avant-guerre, ils l'étaient terriblement. Mais après-guerre, c'est encore pire parce que, disons, il y a un court-circuit de la pensée critique qui fait que on remplace populaire par américain. Voilà. Et donc, non seulement le jugement est reconduit par rapport à l'avant-guerre, les univers populaires ne sont pas nés d'intérêt, mais en plus, on n'en a même pas à nous. Ils sont américains. Voilà. Et ça, c'est un coup très dur porté, disons, au travail normal de la mémoire. Le Nyctalope est en vedette dans la brigade parce qu'il incarne, à cause de ses contenus politiques latents, latents ou d'ailleurs exprimés par Lahir lui-même, une des raisons pour lesquelles ces personnages ont été oubliés, c'est qu'ils se sont rangés politiquement du mauvais côté. J'ai dit tout à l'heure que Lahir avait continué d'animer les aventures du Nyctalope jusque pendant l'occupation. Il l'a fait avec l'accord des autorités allemandes. Et il a fait du Nyctalope un personnage qui, en gros, est un collabo. Voilà. Est-ce qu'il est très facile de réintégrer dans la culture ambiante l'idée qu'un personnage d'archétype merveilleux, comme peut l'être Superman, comme peut l'être Batman, comme peut l'être Tarzan, comme peut l'être Arsène Lupin, ait été un collabo? Voilà. C'est très compliqué. La littérature de cette époque, et spécialement la littérature qui met en scène ces personnages, ces super-héros primitifs, c'est une littérature qui est, au fond, parfaitement en accord avec les valeurs de la Troisième République de cette époque. Elle est raciste, elle est colonialiste, elle est sexiste, et il y a une sorte d'hypnose hitlérienne, parce que Adolf Hitler manifeste, met en scène, dans le concret, dans la vraie vie, sur le continent, le thème du surhomme au sens propre. Il l'utilise comme un bélier politique et ces personnages, au fond, ne sont pas de taille à résister à cette offensive théorique et culturelle. Donc, basiquement, la Brigade Chimérique raconte que nous avons bien eu des super-héros en Europe et spécialement en France dans les années 20-30 et que s'ils ont été oubliés, s'ils ont été refoulés, indépendamment des qualités esthétiques propres qu'ils avaient, indépendamment du fait que certains d'entre eux, dont le Nyctalope lui-même, représentaient une vraie nouveauté, j'ai pas fait le tour de la question de la nouveauté tout à l'heure, on y reviendra peut-être, ces personnages ont fait les mauvais choix politiques. Et donc, le thème du surhomme et le thème du super-héros, après-guerre, après la résistance, après la libération, est devenu un thème politiquement, c'est même pas suspect, c'est une figure du mal, le surhomme, à ce moment-là. C'est-à-dire et d'ailleurs, les derniers grands surhommes, disons, qui se rapprochent en termes de charisme personnel, en termes de magnétisme, en termes de pouvoir, en termes de position occupée dans l'imaginaire, ce sont des figures du mal. Moi, j'étais très frappé. Quand on lit La Marque Jaune, par exemple, d'Edgar P. Jacobs, dans les aventures de Black et Mortimer, La Marque Jaune, c'est Ulrich. C'est l'histoire d'un occidental qui commence dans sa carrière de vilain comme collabo avec les déclencheurs de la Grande Guerre mondiale, des débuts de la saga, c'est-à-dire une guerre d'invasion asiatique. Bon, c'est un traître, c'est un type qui est un occidental qui se range aux côtés des Asiatiques pour détruire l'Occident. Et ensuite, il deviendra le super méchant récurrent de la série Black et Mortimer. Et dans La Marque Jaune, il ressemble pratiquement trait pour trait à The Shadow. Il a la houppelande noire, le chapeau noir, les lunettes rouges qui brillent dans la nuit. Il est capable de faire des sauts extraordinaires. Il émet des rayonnements. C'est un super vilain. Et c'est un super vilain qui est un ancien occidental dévoyé qui s'est rangé du mauvais côté pendant la guerre mondiale. Ça, c'est pratique, et en plus il voit la nuit avec ses lunettes, donc c'est pratiquement une figure inversée du Nyctalope, tu vois ce que je veux dire? Si tu suis les généalogies comme ça, tu t'aperçois, c'est très frappant, tu vois les transmutations, les inversions de valeurs se produire. Bon, et à l'inverse, le seul personnage d'après-guerre qui ressemble à un super-héros, qui est le plus proche d'un super-héros pour nous, c'est un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Bob Moran, que tout le monde connaît, hein, qui existe depuis 1953, qui a connu quand même 180 aventures, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui connaît de nouvelles aventures, qui est adapté en BD, à la télé, au cinéma, en animation. Et ce personnage, c'est un personnage sans pouvoir. C'est un personnage qui commence, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est pilote dans la RAF, il fait la bataille d'Angleterre, et ensuite il vit des aventures. Il n'a qu'un seul très léger super-pouvoir, il est Nyctalope. Ce qui est incroyable aussi, quand on dit... Il voit la nuit, lui aussi. Donc, ce personnage du Nyctalope est très complexe et central parce qu'il incarne en France toutes les contradictions esthétiques, politiques, sociologiques, les représentations ambiantes, disons, de l'altérité, du non-occidental, tout se joue sur lui. Voilà. Ce qui est remarquable pour un personnage qui n'a presque aucune valeur littéraire. Tu vois ? C'est quand même étonnant. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est pour ça qu'on en a fait notre personnage central, en fait.
Et est-ce que les super-héros européens ont été disqualifiés aussi, en plus, on va dire, parce que c'était des surhommes ? Et qu'ils étaient disqualifiés en tant que surhommes auxquels les nazis faisaient référence. Le surhomme utilisé
oui,
par,
c'est ce que je parlais,
le surhomme nazi, les Aryens. Est-ce que ça aussi, c'était voilà, une valeur qui, culturellement, ne pouvait que disqualifier ces super-héros européens ?
Ma réponse, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, mon hypothèse de fond, c'est que la figure même du surhomme, qui est une figure très importante dans l'entre-deux-guerres, c'est une figure qui, voilà, il y a Nietzsche, il y a Dr Jekyll, il y a Moravagine de Sandrart, qui est un tueur fou démoniaque, mais qu'on ne peut qu'admirer puisque c'est une sorte d'artiste prédada. Il y a Fantomas, que les surréalistes adoraient. Il y a Lupin, il y en a plein des histoires comme ça. On a tout un univers qui était en cours de fabrication, on va dire, si tu veux, il était vraiment là. Et cet univers, sa cohérence, sa substance disparaît après-guerre parce que je pense que la figure du surhomme est devenue une figure du mal, ce qu'elle n'était pas avant. Donc, quand tu as une inversion de valeur qui se produit, si tu veux, d'un seul coup, sans que tu saches pourquoi, un matin tu te lèves et une chose que tu adorais la veille, tu la détestes. Voilà. C'est l'inversion de valeur s'est produite. Tu peux pas la voir sans avoir envie de vomir. Tu n'as plus rien à voir avec elle. Plus vite elle disparaît de ta vie, mieux c'est. Bon. Et je pense que c'est ce qui s'est produit. Il s'est produit une chose. Tout cet univers, on a gardé des figures. Neutres. On a gardé Maigret. Voilà. Un homme humble, patient, le médecin des âmes, tu vois, qui la ramène pas, qui a pas de pouvoir, qui est que dans la compassion et la compréhension. Et c'est très bien, c'est Simenon, c'est une œuvre. Mais est-ce qu'une société peut éternellement, surtout une société qui a une aspiration à la grandeur, comme la nôtre, et Dieu sait que ça. C'est au centre des préoccupations maintenant permanentes des politiques, des sociologues, la dépression française, pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on fait la même performance que les autres, en gros. Pourquoi est-ce que c'est si triste ici ? Pourquoi on ne s'amuse pas ? Une partie de la réponse me semble résider dans ce lien dénoué avec un certain merveilleux, héroïque... une certaine imagerie du surhomme, l'autoconscience qu'on peut avoir en tant que société d'être capable de produire des personnages plus grands que la vie. Quoi. Non, nos personnages idéaux sont dans la vie, ils ne sont pas plus grands que la vie. Ils sont humbles, il faut plus la ramener maintenant en France. Voilà. Et c'est le problème, c'est qu'on est quand même une culture qui la ramène depuis 1000 ans, avec Jeanne d'Arc, avec Roland, avec Napoléon. Voilà. Et c'est ça qui nous rend heureux, c'est de produire des monstres. Or, c'est impossible aujourd'hui. C'est impossible parce que c'est suspect.
Et cette histoire culturelle de Nick Talop, des autres héros, c'est une amnésie volontaire ? C'est une amnésie involontaire ?
Bon, non, mais il faudrait vraiment définir précisément la terminologie, tu vois, le vocabulaire. Si tu dis amnésie volontaire, ça a un sens en psychiatrie.
Oui, alors une sorte d'oubli culturel ?
Oui, c'est un... Je sais pas comment le définir exactement. Vaguement psychanalytique, c'est un refoulement. Simplement, c'est un refoulement à l'échelle d'une culture tout entière, avec une partie des gens qui savent que ce refoulement a lieu, qui le voient, et qui sont d'accord. C'est très curieux. Et aussi une partie des gens qui voient le refoulement, qui n'en sont pas victimes, parce qu'eux ne refoulent pas. Eux, ils continuent de trouver que cet univers a de la valeur, que ça vaudrait le coup, et qui deviennent d'un seul coup complètement inaudibles dans le champ culturel.
Dans La Brigade Chimérique, il y a une autre héroïne, mais qui n'a qui n'est pas forcément une super-héroïne, c'est Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie. Oui. On navigue autour de l'Institut du Radium à Paris, à côté du Panthéon, avec cette famille Curie, parce qu'il y avait, à l'époque de l'entre-deux-guerres, une ambiance super scientifique. On pourrait dire ça.
Le terme, c'est d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais disons, depuis les années 30-40, l'exagération dans la titraille des revues de science-fiction américaines qui titraient en général cette grande histoire de super science. C'était l'archétype du slogan publicitaire des revues qui publiaient Isaac Asimov. Les grandes histoires de super science. La super science, c'est un terme qu'on utilise dans le milieu de la science-fiction internationale pour parler de ça, du vaisseau de Star Trek et de la kryptonite, on va dire. Voilà, c'est des objets qui ont l'air d'être scientifiques, mais qui ne le sont pas, qui sont des objets magiques, en fait. Mais ils sont suffisamment reconfigurés et traités avec respect par les auteurs pour jouer un rôle hybride entre magie et science. Voilà. Donc, super science. Et effectivement, dans les années... À partir de la découverte du radium par Marie Curie, et puis ensuite de la vulgarisation de ses effets les plus spectaculaires... les rayons X évidemment, mais aussi la fluorescence, ce qui fait qu'on a utilisé des teintures au radium pour les blondes dans les années 30. Il y avait brillé de mille feux grâce à la teinture radiale. C'est des trucs hallucinants, les mecs se mettaient des matières radioactives sur la tête pour avoir les cheveux plus blonds. Ou bien évidemment, à partir des années 30, la rumeur de plus en plus appuyé de la possibilité de créer une bombe atomique grâce à la radioactivité. Donc ce mélange de folklore scientifique, d'émerveillement presque de foire ou de cinéma, et en même temps de matière dangereuse, voire semi-transcendante, tout ce qui finira par s'aboutir dans le champignon atomique d'Hiroshima. Cette matière-là, c'est la matière miracle par excellence de l'entre-deux-guerres. Donc quand on a besoin d'un prétexte pour justifier la métamorphose d'un homme en une créature monstrueuse, le radium est souvent une très bonne solution, comme l'uranium ou les rayons cosmiques dans les années 60 provoquent la métamorphose des quatre fantastiques ou l'araignée radioactive qui pique Parker et qui le transforme en Spider-Man. C'est toujours les mêmes trucs, hein. C'est l'endroit. Et aujourd'hui, ce serait les nanotech, les mutations dirigées, le clonage, etc. Il y a toujours, à la frontière des pratiques scientifiques expérimentales, comme ça, une zone de folklore qui mélange la magie, la métaphysique, la vraie science, et qui donne un truc bizarre, qui est la mythologie de l'époque.
Mais dans cette BD, la Brigade Chimérique, toute une partie de l'histoire se passe à Paris, dans l'Institut du Radium, qui fait l'effet de donner à ce lieu, en plein cœur de Paris, vraiment, qui est à côté du Panthéon, l'Institut du Radium, on peut toujours se balader dedans.
Sauf que, détail essentiel, il ne s'appelle plus Institut du Radium, il s'appelle Institut Pierre et Marie Curie.
Peut-être qu'il y a encore marqué Institut du Radio
sur la pierre. Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas fait attention.
Mais on est en plein cœur de Paris. Ouais, bien sûr. Et la BD, la Brigade Chimérique, va permettre de revisiter la ville, le lieu comme ville, et d'en faire une histoire, de le sublimer un peu à la manière des bandes dessinées de super-héros américaines qui prenaient toujours place dans la ville américaine.
Oui,
il y a un imaginaire qui...
Absolument.
Ça permet de créer un imaginaire autour de Paris.
Alors, c'est encore une autre question, effectivement, que je poursuis toujours, par contre. Indépendamment de la question ou du problème des super-héros, c'est Paris. C'est-à-dire que je trouve que les villes envoient des images. Les villes émettent des images. À travers aussi bien l'actualité, l'art et l'art, le journalisme et l'art, l'histoire, on finit par avoir des images mentales, trois ou quatre sur chaque ville. Il y a toujours un monument qui est représentatif, une ambiance, une couleur, quelques histoires types. Bon. Et je trouve que, Paris, aujourd'hui, est à l'étroit dans ses limites géographiques, comme dans ses limites mythologiques. C'est-à-dire que En gros, quand les Américains pensent à, quand les Américains, quand le monde entier pense à Paris, et tout le monde est d'accord pour ça, y compris les autorités parisiennes, on va dire. On pense, voilà, au quai de la Seine, aux histoires d'amour, Irma la Douce. Bon, il y a mille autres choses à dire sur Paris, mais c'est la ville de l'amour, c'est la ville de... Voilà. Quand Woody Allen vient à Paris, il fait une histoire d'amour avec Hemingway. C'est toujours un peu comme ça. C'est la ville des histoires d'amour. Voilà. Or, comment dire, s'il y a bien une ville qui a été autre chose que ça, c'est Paris. C'est-à-dire que c'est une ville de violence, c'est une ville de mystère, c'est une ville pour les alchimistes, c'est une ville pour les... C'est la ville de Cagliostro, c'est la ville de... C'est la ville de Vidocq, c'est la ville de... Comment dire, du premier laboratoire de police scientifique. C'est la ville de la première création de la brigade criminelle. C'est une ville qui comment dire, acceptait de vivre dans un folklore muséifié de la ville de Amélie Poulain, on va dire. Comment dire, c'est une carte postale sur le plaisantoir, mais il y a plein d'autres, tu vois, il y a plein d'autres emplacements possibles. Et moi, la ville que j'aime et qui m'intéresse, et la ville dans laquelle je pense qu'on aimerait vivre aussi, c'est une ville où il y a la présence de Fantômas. C'est comme ça. C'est aussi une ville étrange. C'est aussi une ville très mystérieuse et c'est très ancienne. Avec des, si tu fais 5 km, tu vas dans la forêt de Meudon, t'as des dolmens, t'as des restes de menhirs qui prouvent que le site était déjà occupé il y a 6000 ans. Et au 19e siècle encore, il y avait de la sorcellerie dans les forêts autour de Paris, tu vois. Bon, mais personne, comment dire, c'est un aspect de notre culture qui n'intéresse personne. Et c'est là, si tu veux, que le terme de c'est là qu'il nous manque un terme. L'amnésie volontaire, le refoulement, tout ça, c'est de la pseudo-science pour parler d'un truc qu'on sent sans pouvoir vraiment le caractériser. Il y a une passion grise de la France au XXe siècle. Il y a une qui se voit dans tout. Il y a une passion du morne, du gris, du petit. Je donne toujours cet exemple parce que de ma fenêtre là, on voit les tours du 13e. Dieu sait que les tours dans Paris, ça n'a jamais été une réussite, tu vois. Il y a un truc comme ça, c'est... Les Américains nous ont montré comment il fallait faire des tours. Les tours que les gens viennent du monde entier pour visiter, elles sont élancées avec une flèche décorée, alignée sur rue. Ça fait une ville magnifique. Et comme nous, on est français, on fait des tours petites, pas élancées, de biais pour pas qu'elles soient sur rue, sur des dalles et grises sans aucune décoration. Et ça crée des quartiers criminogènes. Et on le fait depuis 50 ans. Sans jamais remettre en question les choix. Jamais. Autrement dit, si les Américains l'ont fait comme ça, on va faire le contraire. Pourquoi ? Bah parce que c'est des grands enfants, parce qu'ils adorent vivre dans ce monde merveilleux qui est le leur, mais nous, on sait bien que c'est pas comme ça. Eh ben non, c'est pas comme ça. Et je veux dire, de la même manière qu'il nous manque, alors qu'on est les inventeurs de la Tour Eiffel, tu vois, c'est-à-dire l'archétype de la tour incroyable, spectaculaire. Mais ensuite, c'est fini. Ensuite, on ne le fait plus. Il y a quelque chose qui s'est perdu au XXe siècle en France. C'est très bizarre.
J'aimerais qu'on parle des autres personnages dans la brigade chimérique. Il y a le docteur Mabuse,
oui.
Il y a Andrew Giberne, accélérateur. Si on prend Andrew Giberne, accélérateur, donc il est du côté anglais, quelle généalogie de ce personnage ?
Alors, c'est un personnage qu'on a inventé à partir d'un personnage existant. Il y a une nouvelle du tout début du 20e, 1902, je crois, de Wells qui s'intitule Le Nouvel Accélérateur et qui est l'histoire d'un type, Giberne, qui met au point un sérum de super vitesse, c'est-à-dire qu'en l'absorbant, il est capable de se déplacer 30 ou 40 fois plus vite que son métabolisme accélère de 30 ou 40 fois, et donc il se déplace dans un monde où tout le monde paraît figé. C'est devenu un thème très classique après, notamment par le personnage de Flash dans les super-héros américains, le thème de la super vitesse. Et donc quand on a cherché les personnages qui allait représenter effectivement l'univers chimérique, on s'est dit, Giberne a eu un fils qui récupère le sérum de son père et qui l'utilise de manière classiquement super-héros.
Il y a le docteur Mabuse, qui va être une sorte de double de Hitler.
Oui, alors Mabuse a une, c'est intéressant. Mabuse, c'est vraiment un, donc c'est une série de romans d'un auteur luxembourgeois qui s'appelait Norbert Jacques. Mais évidemment, le personnage est devenu célèbre grâce à Fritz Lang et au film. Et il y a eu quelque chose de très, donc c'est un super criminel. C'est une sorte de maître secret de la ville, ce que les Américains appellent le Nightmare, le maire de nuit. C'est-à-dire, c'est celui qui règne sur la ville la nuit. Voilà, c'est une araignée au centre de sa toile qui a des espions partout, qui contrôle aussi bien la pègre que les trusts, que le gouvernement. Bon. C'est un personnage de super criminel, de super vilain, parfait. Et alors évidemment, on ne peut pas ne pas comment dire, faire le lien entre... D'abord, la critique a depuis longtemps repéré des traits prophétiques par rapport à l'hitlérisme dans Mabuse de Fritz Lang. Très prophétiques qui sont encore accentués par le fait que les nazis, en particulier Goebbels, à des fins de propagande, ont proposé à Fritz Lang de devenir le cinéaste officiel du régime, en ayant vu à la fois Mabuse et puis surtout Métropolis, dont les effets de, disons, d'hypnose collective, de symétrie dans les agencements annonçaient ou inspiraient ou sortaient de la même source, on va dire, caligaresque. De manipulation des foules que les futures mises en scène des grandes démonstrations et des grandes parades nazies. Et Fritz Lang a refusé, contrairement à sa femme, qui a Théa von Arbou, qui elle a accepté de servir le régime. Fritz Lang est parti, il a fait un film en France et puis ensuite en Angleterre et aux États-Unis. Donc le personnage de Mabuse, disons, comme effectivement maître de l'hypnose des foules, était le parfait super-vilain de l'histoire.
On trouve aussi le docteur Jean Séverac. Quelle généalogie également.
Alors lui, c'est Jean Séverac. Donc Jean Séverac, c'est une création, c'est le héros, c'est lui-même qui abrite l'équipe appelée la Brigade Chimérique en lui-même, sans le savoir. Il est inspiré d'un roman de J.H. Roni, paru en 1917. Un très beau roman, c'est vraiment étonnant et dommage qu'il soit méconnu. L'énigme de Givreuse, qu'on peut lire aujourd'hui sans aucun problème.
Même oui, si parce que J.H. Roni, lui, a une postérité.
Il a une postérité. Alors là, pour le coup, on peut faire un développement. Il a une postérité qui est sans aucune commune mesure avec l'envergure du personnage. J.H. Roni, c'est un Belge qui... un enfant belge qui est aussi doué pour les maths que pour la littérature. Qui part en Angleterre, commence à travailler dans les télégraphes, tout en prenant des notes, qui s'informe qu'il est un des premiers à lire la théorie de l'évolution de Darwin, et puis tout en suivant l'actualité littéraire française, qui vient s'installer à Paris en 1886. Il prend place d'abord dans le milieu des écrivains autour de Zola, les soirées de Médan. Il est très mal à l'aise là-dedans, il l'est d'autant plus que je crois Zola fait mauvais accueil ou refuse de recommander son premier roman, Nell Horn. Et donc Roni, avec quatre autres hommes de lettres de l'époque, signe un papier dans Le Figaro en 1887, qui est connu aujourd'hui dans l'histoire littéraire comme Le Manifeste des Cinq, qui attaque le naturalisme de Zola en disant « c'est fini, la littérature de Zola, c'est une sorte de pornographie qui dit... qui montre l'homme comme une pure machine biologique héréditaire, etc. Ça n'a aucun intérêt, la documentation scientifique est mauvaise, ça n'apprend rien sur rien, le statut expérimental de cette littérature est totalement surfait, il faut faire autre chose. Et ce papier, d'une très grande violence, ouvre un phénomène qui pratiquement s'est refermé avec Michel Houellebecq, qui est, au XXe siècle, la crise du roman français. Bon. C'est le papier qui commence tout. C'est pas rien déjà d'avoir lancé cette crise qui est devenue un phénomène structurant de la culture française au XXe siècle. Roni quitte l'entourage de Zola, rentre dans celui des Goncourt, cofonde avec eux l'Académie Goncourt, le prix Goncourt, tout en inventant la science-fiction et le roman préhistorique, en 1887, dans une nouvelle, L'Exipéuse, et puis un peu plus tard dans La Guerre du Feu. Pendant toute sa vie littéraire, qui durera jusqu'en 1940, date de sa mort, il ne cessera d'écrire de la science-fiction. Et il est reconnu internationalement, mais pas en France, comme l'un des pères fondateurs de la science-fiction avec Verne, avec Wells, avec Conan Doyle, etc. Il deviendra président de l'Académie Goncourt. Il inventera le terme astronautique. C'est lui qui invente le terme astronautique pour l'ingénieur français qui est le théoricien des fusées de l'entre-deux-guerres, Robert Snopeltry. Et c'est par Snopeltry que le terme se développera aux États-Unis et qu'il deviendra le terme officiel regroupant les activités spatiales, l'astronautique. C'est un type qui a écrit, je crois, 30 récits de science-fiction, 10 récits préhistoriques, 50 romans naturalistes. Il a aussi écrit 4 ou 5 essais de philosophie, et au moins dans un essai, il a été considéré comme l'un des contemporains très intéressants sur le plan philosophique de Bergson. Il a développé une théorie qui s'appelait la théorie du pluralisme. Et toute son œuvre est animée par à peu près la même cohérence, qui est en gros une sorte de vision darwinienne, mais anti-compétitive de l'histoire. Il avait tiré une morale très forte de ça, avec de forts accents écologiques d'ailleurs, très, très prophétiques, dans laquelle il explique, oui, l'homme est une machine darwinienne, mais c'est pour ça que le geste le plus élevé est l'altruisme et le sacrifice. Enfin, il avait développé une philosophie là-dessus. Ce type, donc, qui a fait une carrière de 55 ans, président de l'Académie Goncourt après l'avoir fondé, inventeur du terme astronautique, à l'aise aussi bien dans les milieux scientifiques dont il était considéré comme l'un des représentants que dans les milieux littéraires, enfin, ce type n'a pas eu droit à une biographie. C'est quand même incroyable. Pas une. Ça fait 70 ans qu'il est mort. Pas une. Rien. C'est un personnage remarquable qui n'intéresse personne en France. C'est comme ça. Et donc, il a écrit en 1919 l'énigme de Givreuse, qu'on peut donc relire aujourd'hui, car c'était, même si sa prose a un peu vieilli, c'était un écrivain de valeur. Et l'énigme de Givreuse est un roman qui raconte l'histoire pendant la Première Guerre mondiale d'un soldat, Pierre de Givreuse, qui se retrouve, on sait trop comment, victime d'une expérience scientifique sur le champ de bataille et qui se dédouble. C'est-à-dire qu'ils sont deux à être le même homme, deux corps. Et à partir du moment où ils sont deux, évidemment, leurs expériences subjectives se séparent. Et donc, une fois à la fin de la guerre, ils rentrent tous les deux. Et c'est l'histoire de ces deux hommes qui n'en sont qu'un et qui doivent choisir qui récupérera la vie d'avant de l'autre et qui ira comme un nouveau-né. Ben, c'est un très beau roman psychologique sur la mémoire, sur l'identité, un pur roman de science-fiction, très intelligent, l'énigme de Givreuse. Et on s'est servi de l'archétype de ce personnage qui se brise en deux, en fait, qui se dédouble, pour imaginer non plus une bipartition, mais une quadripartition, puisque dans la brigade, le personnage de Sévrac se casse en ces quatre archétypes basiques, disons, le soldat inconnu, la force animale, la jeune fille fleur et le savant fou desséché.
Ça, c'est la brigade chimérique. Ouais. Cette brigade chimérique... Il n'y avait pas une histoire qui existait à cette époque.
Non.
Non, c'est une invention.
C'est une invention. Il y a, il y a cette ambiguïté autour de Georges Spade. Georges Spade a vraiment existé.
Georges Spade, qui est donc
un des personnages de la bande dessinée, qui est représenté comme une jeune garçonne qui fait un peu de l'écriture automatique dans le sillage des surréalistes. On s'est inspiré d'un écrivain femme qui a vraiment existé dans les années 20, qui est très intéressant, qui s'appelle René Dunant. Qui a été lesbienne, anarchiste, pacifiste, dadaïste, surréaliste, enfin c'était tout en écrivant des romans pornographiques et des romans de science-fiction. Voilà. C'est encore un personnage vraiment très étonnant, mais on ne sait pas grand-chose d'elle en fait, on a très peu de choses sur elle, qui a utilisé plusieurs pseudonymes, dont un, Georges Spade. Or, sous ce nom de Georges Spade apparaissent ici et là des fragments. Il y a une nouvelle que j'ai lue, mais je sais qu'il y a eu d'autres textes, d'une espèce de saga qui s'appelle L'homme chimérique. On ne sait pas exactement ce que c'est. Voilà. Donc on s'est servi de ça.
Mais on peut lire toujours cette aventure de l'homme chimérique ?
Non. J'ai un ami collectionneur qui m'a montré une fois un fascicule de la série L'homme chimérique, mais qui ne le prête pas, qui ne le photocopie pas. Il n'y a pas d'exemplaire au dépôt légal.
À la Bibliothèque nationale de France.
Il n'y a pas tout à la Bibliothèque nationale, il ne faut pas croire. Il y a énormément de fascicules populaires qui n'ont jamais été déposés à la Bibliothèque nationale. Donc il y a ça.
Mais alors là, c'est assez nébuleux. En même temps, voilà, L'homme chimérique, ça a vraiment une aventure de Georges Spade. Oui. Et on n'en sait quasiment
rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien, on ne sait même pas si c'est elle. On ne sait même pas si c'est elle, puisque Renée Dunant est censée être morte en 1939 ou 40, mais en 42, il y a un type qui s'appelle Georges Dunant qui a écrit à un éditeur pour demander qu'on lui verse les droits de Renée Dunant en disant « c'est moi qui ai tout écrit ». On ne sait pas qui c'est.
Et alors, il y a un autre héros dans la Brigade chimérique qui est Grégor Samsa, le Grégor Samsa de la transformation de Franz Kafka, mais qui est là traité... Oui, la métamorphose, oui, j'ai dit...
La transformation,
t'as vu. Non, c'est la métamorphose. Qui est traitée dans la bande dessinée La Brigade chimérique sous l'angle du super-héros. Parce qu'effectivement, on peut faire de Grégor Samsa une sorte de super-héros qui a la capacité de se transformer en insecte.
C'est-à-dire que c'est un classique de l'imaginaire des super-héros, ceux dont le don est une malédiction. C'est-à-dire, ils ont un don, mais il est, voilà, c'est un peu ridicule, ou, voire carrément désastreux. Et comme nous, on avait... Alors, bon, ça n'aurait pas suffi à soi seul à justifier le fait que Samsa soit dans la brigade et joue un rôle dans la brigade. Et ça n'aurait pas suffi non plus l'ambition de mélanger haute et basse culture en tant que telle. Disons, on avait un propos. Il y avait aussi un propos sur le... Il y avait un propos sur le nazisme dans la brigade, qui est pas un propos vraiment très articulé, qui est plutôt la mise en scène d'une intuition. Cette intuition, elle vient d'une remarque de George Steiner, le philosophe, qui expliquait qu'il avait été, lui, donc dans ses recherches sur le langage, il avait été très perturbé par le fait que, alors non seulement certaines fictions de Kafka, comme Le Procès ou surtout La Colonie pénitentiaire, semblaient à une description anticipée des mécanismes, disons, de l'univers concentrationnaire. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Enfin, voilà, c'est typiquement une phrase kafkaïenne, mais c'est une phrase qui a été dite à Primo Levi par un gardien nazi dans un camp. Ici, il n'y a pas de pourquoi. C'est typiquement une phrase kafkaïenne. Donc, non seulement Steiner voit dans Kafka, disons, une prédescription des mécanismes de l'univers concentrationnaire, mais il a été très frappé, très perturbé, très troublé par le fait que le mot qu'emploie Kafka, qui est écrit en allemand, pour qualifier Samsa, ce n'est pas cafard. C'est Ungeziefer qui veut dire vermine. Or, il se trouve que ce mot, qui est assez rare en allemand, a été aussi le mot utilisé systématiquement par Hitler pour désigner les juifs. Et donc, on voit dans certains textes de Steiner ou dans une interview à quel point ça le trouble. Et on ne peut pas ne pas ressentir ce trouble si on s'intéresse au langage, si on s'intéresse à la nature des images mentales, comment elles agissent sur les foules. Effectivement, Hitler utilise à dessein le terme « vermine » pour justifier par avance l'idée des insecticides, des gaz. La vermine, on la gaze. Donc, quand il dit la vermine, il fait la moitié du chemin. Il laisse le public, il laisse son auditoire compléter mentalement, sans s'en rendre compte. Et le jour où, 15 ans plus tard, on accède au pouvoir, tout le monde trouve naturel qu'on fasse des chambres à gaz. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a une réflexion de cet ordre sur le langage. Et donc, moi, je voulais, alors non pas faire une analyse de ça, parce que j'en suis pas capable, et puis de toute façon, c'est pas mon rôle, mais je voulais utiliser cette étrange coïncidence pour signaler où est le massif du problème, disons, dans l'hitlérisme. L'art du langage hitlérien. Et donc, comment est-ce qu'un homme a réussi à nous convaincre, à nous écraser, à convaincre son peuple de le suivre là-dessus? Comment est-ce que la domination se fait sur les foules? C'est vraiment des sujets absolument vitaux, quoi. Et donc, on voulait parler de ça, et à partir de ce moment-là, utiliser le personnage de Grégor Samsa était assez évident, parce que, voilà, il incarne ce que Mabuse veut éliminer en Europe, c'est-à-dire, non pas l'homme cafard, mais la pitié juive, mais le monothéisme, mais la compassion. Et donc, on en a fait un surhomme affligé d'une malédiction, oui, c'est un homme qui ne peut se transformer qu'en cafard. Ce qui est quand même un super pouvoir typiquement kafkaïen. Et c'est aussi un homme qui apporte une mauvaise nouvelle. C'est un homme qui, qui dit comment dire, l'heure des foules transformées en cafards a bientôt sonné. Et bon, c'est, je te dis encore une fois, c'est pas une utilisation rationnelle, c'est une utilisation symbolique du personnage pour donner une certaine couleur à cet univers qui est forcément désespéré.
Et c'est la malédiction de ces surhommes.
Oui, c'est la malédiction de ces surhommes, et au fond, ce que décrit le... Parce que tu vois, moi, avec Fabrice, quand on a écrit ce scénario, on l'a écrit, on savait que ça finirait à Auschwitz.
La dernière image.
Ouais, on s'était mis d'accord tous les trois avec Jess et Fabrice sur le trottoir de la librairie La Talente à Nantes. Quand on a parlé la première fois de ça, on s'est tous regardés, on s'est dit, ça finit à Auschwitz. Oui, ça ne peut finir qu'à Auschwitz. Donc, c'est lugubre. Tu vois, c'est une marche vers la mort, cette histoire. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit à la fois bravo d'avoir été au bout de ça, d'avoir choisi de montrer ça. En plus, c'est très compliqué, montrer une scène d'extermination. C'est très compliqué. Moralement, moi, ça me pose des problèmes incroyables. Il y a une scène au milieu, dans le tome 3 ou 4, où on voit effectivement Mabuse faire gazer des juifs. Et ce qui se passe... Ce qui se passe à ce moment-là, moi je suis, par exemple, quand Claude Lanzmann dit autour de l'acte même d'exterminer, il faut tracer un cercle de flammes, on n'a pas le droit de le représenter, c'est une chose que je prends au sérieux, c'est un problème pour moi. Donc les métaphores visuelles que j'utilise, elles ont un, tu vois, elles sont surinvesties parce que j'ai fait très attention à ce que je montre.
C'est vraiment il y a une éthique dans l'esthétique.
Il y a une éthique dans le, voilà, absolument, c'est une éthique et une esthétique. Mais on savait qu'on finissait à Auschwitz, et donc ce qu'on voulait, c'était montrer ce monde qui est merveilleux. C'est le monde de l'entre-deux-guerres, il est encore merveilleux. Il y a encore l'Atlantide, il y a encore les servants de Maurice Renard, ces êtres bizarres, invisibles, qui vivent dans la stratosphère et qui nous pêchent. Il y a encore des monstres dans les égouts de Paris, il y a encore des invasions extraterrestres. Place de la Concorde, il y a encore tout ça. Et cet univers, j'en suis, moi, désespérément amoureux, tu vois. C'est amoureux, parce qu'il suffit que je l'évoque pour me sentir presque léger. Je ne sais plus si je t'ai raconté ça, je suis allé à New York une fois, et en face de mon hôtel, à Times Square, il y a un gratte-ciel, et à peu près au niveau du 10e, 15e étage, il y avait un Spider-Man géant accroché à la façade, tu vois. Et quand les gens partaient le matin, je descendais boire un café dans la rue, dans un bar, et je regardais. Et les gens qui passaient sur le trottoir, tout le monde, les cadres qui descendaient à Wall Street, comme les femmes de ménage portoricaines, tout le monde levait les yeux et souriait en voyant le Spider-Man, tu vois. Et parce qu'il représente quelque chose, c'est tout. Je sais pas, c'est comme les statues dans les temples grecs autrefois. C'était content de savoir que c'est là, quoi. C'est une présence. Tu vois ton imaginaire. Tu vois l'imaginaire du monde dans lequel tu es. Et ben dans les années 30, on aurait pu rêver de ça. On aurait pu rêver d'un fantomas géant au-dessus de Montmartre, ou de, tu vois. Et donc retrouver cet univers-là, c'est accéder à une sorte de voilà, accéder à ce que les Américains ont, sans forcer. Ça existait, mais ça n'y est accédé que pour en faire le deuil, parce que cet univers, il s'est englouti après, et on peut pas le ramener comme ça. C'est très compliqué de le ramener comme ça.
Parce que c'est crépusculaire pour ça.
Ouais, c'est crépusculaire.
C'est la fin des super-héros.
C'est la fin. Et c'est la fin d'une. De toute façon. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai tendance à voir le petit XXe siècle, 1914-1990, comme une immense guerre européenne de 90 ans. T'as la guerre de 14, t'as la révolution de 17, t'as Weimar, t'as la guerre d'Espagne, t'as la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite t'as la guerre froide, qui s'arrête en 90. On a été en guerre tout le long du XXe siècle. Les Européens entre nous. Tout le temps. Les Allemands contre les Français, l'Est contre l'Ouest, voilà. Et non seulement on a été en guerre, mais à partir de 45, au fond, le continent a été occupé à l'Est par les Soviétiques et à l'Ouest par les Américains. Alors, je ne mets pas sur le même plan les Soviétiques et les Américains, la domination n'était pas du même ordre, mais il y a quand même une occupation culturelle, dans les deux cas. Et quand la guerre froide a pris fin en 90, d'un seul coup, on s'est aperçu que le roi était à poil, quoi. Voilà, nous sommes l'Europe, ça fait 90 ans qu'on ne s'est pas parlé, ça fait 90 ans qu'on a oublié ce qu'était l'Europe toute puissante de la fin du 19e siècle, et il va falloir faire avec ça. Et moi, je fais avec ça. J'essaye de montrer ça. J'essaie de montrer. Ma démarche, elle est proche de. D'un film que j'aime beaucoup, du premier film d'Arnaud Desplechin, qui est La Sentinelle. Où justement, c'est pour le coup, je trouve que c'est un des rares, vrais, très beaux films étranges sur Paris, le Paris des ambassades, des milieux diplomatiques, de l'Institut médico-légal. On est dans une certaine esthétique qui rappelle presque Clouseau par moments. C'est des histoires dont on a besoin et c'est très difficile de savoir par quel bout les prendre, justement, parce que. Il y a 90 ans, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères savaient parfaitement dans quelle civilisation ils habitaient. Nous, on ne sait pas. Nous, on vit dans une civilisation, pour nous, en France, euro-américaine, mondiale. Et on passe notre temps à se demander mais c'est quoi être français, c'est quoi être européen, voilà. Alors que tout le monde sait ce que c'est qu'être américain ou mondial.
Les super-héros américains, eux, ont survécu. Ah ouais. Les Américains ont gagné la guerre.
Mais ils ont gagné la guerre, donc ils ont survécu, bien sûr. C'est l'incarnation. Les années, disons, les années 1935-1950 sont celles, et on le voit dans l'explosion de la science-fiction américaine. C'est là le paradoxe. La science-fiction américaine, et les super-héros participent de ce moment culturel-là. Elle démarre après la science-fiction européenne. La science-fiction française, elle est théorisée dès 1909 par Maurice Renard. On se sert déjà du terme scientifique romance en Angleterre depuis 1900, depuis Wells. Jarry l'a repéré dans ses notes de lecture sur Inis de Chouzy. Tout le monde sait ce que c'est. Voilà. En gros, en 1910, il y a de la science-fiction européenne, il y a des débuts de collections spécialisées, etc. Les Américains commencent en 1926.
Alors, je souhaiterais vraiment qu'on en parle, Serge, de cette question qui est essentielle.
Je termine sur ce que je voulais dire pour pas laisser la porte ouverte sans raison. Donc, elle démarre après, si tu veux, mais elle démarre dans des conditions éditoriales et surtout à un moment civilisationnel où l'Amérique prend conscience de sa puissance. Et en fait, le triomphe de la SF américaine des années 30, 40, 50, ce qu'on appelle l'âge d'or, 40-50, c'est le moment où l'Amérique devient maîtresse du monde, par la technologie et par la science. C'est-à-dire le champignon atomique d'Hiroshima, la fusée sur la Lune, c'est mortel, quoi. Ils ont montré en 20 ans que c'était eux les patrons. Voilà. Et leur science-fiction à eux, reflète ça, ce sentiment d'ivresse presque, d'euphorie dans la puissance et la domination. Et évidemment, la science-fiction européenne est très très différente.
Alors que la science-fiction a été théorisée par un Français, Maurice Renard, tu l'expliques très bien, en 1909, dans un article « Du merveilleux scientifique et de son action sur l'intelligence » du progrès. Oui. C'est la première théorie de la science-fiction.
C'est la première, oui, oui. Avant ça, il y a une conscience, depuis Jules Verne, en gros, il y a une conscience qu'il existe quelque chose qu'on appelle roman d'aventure scientifique. Bon. Roman scientifique, roman d'aventure scientifique. Et puis, la percée extraordinaire de Wells a favorisé, en Angleterre, l'expansion d'un thème qui est scientific romance. Romance signifie pas roman. Romance, c'est histoire imaginative, disons. C'est une histoire qui n'est impossible, enfin, une histoire exagérée. On employait un peu de la même façon en France, dans les années 30, le terme de roman romanesque. On disait ça pour dire des romans qui ne parlent pas de psychologie, quoi, voilà, qui parlent d'aventure ou de choses comme ça. Donc, il y avait la scientific romance en Angleterre. Et à partir de 1909, Maurice Renard, qui est un homme qui a une révélation devant Wells, et qui dit il y a là un nouveau domaine, il faut le théoriser. Et donc comme on est dans une période d'effervescence littéraire, la NRF vient de se créer, tout le monde cherche des pistes de renouvellement pour le roman, lui il voit, il se dit c'est le moment, il faut théoriser ce qu'il appelle le merveilleux scientifique. Et quoi qu'il semble d'ailleurs que le terme de merveilleux scientifique ait été forgé non pas par lui mais dès 1902 par Camille Mauclair, qui est un type de l'époque qui sera plus tard le redécouvreur de Méliès et qui sera le fondateur du Studio 28 qu'on voit dans la Brigade Chimérique, le premier cinéma d'avant-garde, enfin d'arrêt d'essai à Paris. Enfin bref, Renard fait un texte de 10 pages ultra profond sur ce qu'il appelle le merveilleux scientifique, qui est la science-fiction. Il donne une définition qui marche encore aujourd'hui, si on aime les définitions. si on pense qu'elles peuvent marcher, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais en tout cas, le travail théorique est fait, il identifie les auteurs, l'histoire, les œuvres classiques à son époque, et il dit comment ça marche. Voilà. Et le texte est lu, puisqu'en gros, ça devient la charte des auteurs, tous les auteurs l'ont lu. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont d'accord ou qu'ils se réclament du truc, mais ils en parlent. Maurice Renard, J.H. Rodney en parle, Régis Messac en parle. Enfin, voilà. Et il y a même une vraie question sur est-ce que ce texte a été lu par Gernsback, le fondateur de la SF américaine. On ne sait pas, peut-être. Il y a en tout cas des points de ressemblance entre les deux. Donc, je veux dire, on n'a pas. Tu vois, se sentir dépossédé. Tout à l'heure, je te parlais de Rodney et du mot astronaute. Voilà un aspect du refoulement qui est vraiment très frappant. Dans les années 70-80, quand l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a commencé à former des astronautes pour aller dans l'espace, on ne les expédiait pas nous-mêmes, mais ils partaient soit avec les Russes, soit avec les Américains. Il y a eu une espèce de petit geste de fierté, de se dire, bon, bah, les Américains ont les astronautes, les Russes ont les cosmonautes, nous, il nous faut quelque chose à nous. Et donc, on invente le terme spationaute. Le terme astronaute a été inventé en France en 1926 par un auteur de science-fiction français. Mais le mot ayant été récupéré par les Américains, il n'est plus disponible. Et donc nous ne pouvons pas l'utiliser comme s'il était à nous, alors que c'est nous qui l'avons inventé. Et bien, la science-fiction, c'est exactement pareil. On a théorisé la science-fiction en France à partir de quatre auteurs, un français, un belge et deux anglais. Wells, Rodney, Renard, Verne et Conan Doyle. Et c'est un auteur français qui a fait la théorie. Il l'appelle le merveilleux scientifique, puis après il a changé de nom parce qu'il s'est dit merveilleux, ça me décrédibilise auprès des milieux littéraires, donc je vais l'appeler roman scientifique. Enfin bref, le mot roman scientifique c'est imposé, roman d'imagination scientifique, etc., etc. Et quand la science-fiction est apparue en tant que genre dans les années 50, la critique, en particulier ceux qui défendaient cette conception, Raymond Queneau, on dit « les Américains ont inventé un genre ». Et depuis, le mot science-fiction est resté. Quand on parle de science-fiction, dans 99% des cas, les gens disent « c'est un truc américain voilà. ». Bon, c'est un truc théorisé en France en 1909.
Et c'est ce terme-là de science-fiction qui a été employé par Hugo Gernsback en 1926.
29 c'est... en fait. Il a en commencé 29. En 26, il a forgé un mot valise qui était pour lui non pas le nom d'un genre, mais une marque commerciale. Il a qualifié le nouveau domaine de science-fiction en un seul mot. Mais qui est devenu le nom du genre aux États-Unis. Mais c'était un nom label, c'est un peu comme série noire, si tu veux. Mmh. Tu vois. Sauf qu'il a perdu les droits d'utiliser ce nom 3 ans plus tard parce qu'il a perdu un procès pour faillite frauduleuse. Et que donc, ce mot était une marque, donc il ne pouvait plus l'utiliser. Mais il voulait rester dans le domaine, puisqu'il avait d'autres projets d'édition, il connaissait déjà tous les rouages et tout. Et donc, il a recréé une revue et il l'a baptisée pour la première fois science-fiction.
Et sa principale invention, c'est l'invention du terme.
C'est l'invention du terme comme champ commercial et l'invention du dispositif éditorial qui va avec, qui s'est avéré d'une très très grande importance. C'est-à-dire que les premières revues de science-fiction américaines, donc 1926-1929, sont des revues qui paraissent dans le sillage, dans la queue de comète, dirait-on, de revues de vulgarisation scientifique pour jeunes ingénieurs. C'est des revues qui n'ont rien à voir avec la littérature. C'est des revues où on fait des articles sur l'avenir de la radio, l'avenir de l'astronomie, de l'astronautique. Voilà. Et de temps en temps, Gernsback, qui est lui-même un ingénieur qui fait des postes de radio, en particulier de radio amateur, de temps en temps publie, parce que ça lui plaît, parce qu'il aime ça, une nouvelle de science-fiction récupérée en Europe ou dans d'autres magazines américains qui illustre un aspect de son travail de vulgarisation scientifique. Et c'est ces numéros-là qui ont le plus de succès. Donc un jour, il se dit, je vais faire une revue qu'avec des trucs comme ça. Et il lance la première revue, Amazing Stories, Histoire Extraordinaire, la première revue de science-fiction. Avant ça, il parlait lui-même de scientifique fiction. Bon, quand en France, on parle de roman scientifique et en anglais de scientifique romance. Donc c'est pareil. Mais il veut éliminer vraisemblablement le fic-fic, tu vois, scientifique fiction. Donc il fait science-fiction. Et il dépose le mot. Il perd le droit de l'utiliser. Et donc, comme il ne veut pas revenir à scientifique fiction, il fait science-fiction, mais dans ce mot-là, science-fiction, c'est comme love story. C'est le premier mot à valeur d'adjectif. Donc, c'est fiction scientifique. Et le terme s'est imposé à partir de là, dans le reste du monde. C'est comme ça que ça s'est passé. Et avec la caractéristique qui est très bizarre, qui avait été repéré par Jean-Marc Lévy-Leblon, grand physicien français, créateur de la revue Alliage. Il avait dit la spécificité de la SF en France, c'est le trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union dans la science-fiction américaine. C'est comme love story, c'est deux mots séparés. Et donc ça reste un terme qui veut dire, quand on le traduit, fiction scientifique. Mais en France, science-fiction, ça ne veut pas dire fiction scientifique, ce qui est un trait d'union. C'est un mot en soi, science-fiction. Or, il se trouve que Maurice Renard, dans sa théorie de 1909, il parle de merveilleux scientifique avec un trait d'union entre les deux. Et donc, ce qui reste de Maurice Renard, ce qui a transmigré après-guerre, c'est le trait d'union. C'est l'idée que c'est un objet hybride constitué de deux termes qui ne sont pas équivalents, qui ne se définissent pas l'un l'autre. C'est un objet hybride. Voilà. Et c'est ça qui est resté. Là, ça, c'est intéressant, c'est l'histoire du trait d'union.
Je voudrais qu'on reste sur Maurice Renard, parce que ta dernière BD qui est sortie cette année, qui s'appelle L'homme truqué, où on retrouve un peu l'image.
C'est le même univers que la brigade 20 ans avant.
Oui. Néanmoins, cette histoire de l'homme truqué, tu indiques dans la BD qu'elle est très librement adaptée d'un roman de Maurice Renard.
Oui.
J'aimerais que tu nous en parles. Déjà sur cette liberté d'interprétation, c'était quoi l'histoire originale? Et est-ce que cette histoire originale est lisible encore à nouveau pour nous aujourd'hui, ou est-ce que c'est équivalent au livre de Jean de La Hire, lisible?
Non. Renard était un bon écrivain, c'était pas un écrivain génial, mais c'était un bon écrivain, un peu scolaire par moment, mais ça reste parfois. Il y a des grands moments chez Maurice Renard. On peut lire encore L'homme truqué aujourd'hui, on peut lire d'autant plus facilement que la nouvelle est dans le domaine, donc elle est lisible sur le net, il suffit de cliquer, on la trouve. C'est l'histoire d'un... Ça ressemble un peu à l'énigme de Givreuse, et ça a été écrit d'ailleurs à peu près à la même époque, en 1919, juste après-guerre. Renard a servi pendant la guerre. Et surtout, il a tout perdu pendant la guerre. C'est-à-dire que c'était, avant-guerre, c'était un grand bourgeois, champenois, venu d'une grande famille. Il avait des domestiques, il avait des manoirs, etc. Il écrivait pour le plaisir. Voilà. Après-guerre, il est ruiné. La guerre l'a ruiné. Et il est obligé d'écrire pour vivre. Et donc, il devient un feuilletoniste. C'est une destinée brisée, en fait. Et il va tenter pendant une dizaine d'années de concilier la prose feuilletonesque et la défense du genre qu'il a créé, le merveilleux scientifique. Et au bout de 10 ans, il est complètement épuisé parce que les milieux littéraires ne répondent pas. Personne, ça n'intéresse personne, en fait, déjà à l'époque. Et donc, il renonce plus ou moins. Et il finit sa carrière comme feuilletoniste. Il écrit des nouvelles. Tous les jours, il écrit une nouvelle dans le journal Le Matin. Un conte de quelques pages, plus des romans, des feuilletons. Mais il continue. Et alors donc, L'homme truqué, c'est un roman écrit en 1919. C'est l'histoire d'un officier français, Jean Lebris, qui est capturé sur le champ de bataille par on ne sait qui, vraisemblablement un commando soviétique sur les champs de bataille de la Marne. C'est comme ça. C'est pas dit dans le roman, mais c'est suggéré. Et se livre sur lui à une expérience, comme il a été... défiguré, aveuglé par un shrapnel, on l'a énucléé et on a remplacé ses yeux par des capteurs optiques, électriques, reliés à son cerveau. Et le prix à payer étant qu'il ne voit pas les images normales, il voit l'électricité, il voit les courants électriques. Et donc la nouvelle raconte ça, son retour à la vie civile, et il raconte son histoire à un médecin. C'est assez grave, voilà. Et donc on a gardé le principe du personnage. C'était, on n'a pas suivi la. C'est pour ça que c'est librement adapté. On n'a pas suivi pas à pas la. Ce qui arrive à Jean Lebris, on a considéré que c'était la charte d'un super-héros, un homme mutilé par la guerre et qui voit l'électricité grâce à un appareil optique. Et on s'est demandé comment l'utiliser parce qu'il représente parfaitement le thème des gueules cassées, tu vois, dans les milliettes après-guerre. Comment l'utiliser pour montrer le pari de la brigade chimérique 20 ans avant l'histoire, c'est-à-dire voilà, au moment où le nyctalope est au sommet de sa gloire.
Avec
Marie Curie voilà. Encore vivante, qui n'est pas encore morte de ses...
La reine du radium.
La reine du radium, qui est vraiment là, qui est une vraie peste d'ailleurs.
Mais qui est dotée presque d'un super pouvoir, parce qu'elle a une canne, un grand bâton, au bout un morceau de radium.
Ouais, elle a une lance au radium, mais voilà. Qu'elle trouve dans le vaisseau aérien du nyctalope. Mais peu importe, c'est... Disons que voilà, c'était le plaisir de remonter. C'est pas la vraie innocence, parce que la vraie innocence, c'est l'avant-guerre, en fait. C'est la belle époque. Après-guerre, les gueules cassées, c'est comment dire, tu fais pas, tu perds pas, une nation perd pas 1 million d'hommes jeunes sans être blessé profondément, quoi. Donc, même si c'est les années folles, c'est pas la belle époque, quoi. Y a pas la légèreté. Mais on voulait quand même revenir aux sources de cet univers quand les personnages sont jeunes, avant qu'en particulier que le Nyctalope ait trahi, quand il est encore magnifique, pour le montrer au moins une fois au grand, plein d'initiatives, et jouant vraiment son rôle de héros parisien, quoi, voilà. Et donc c'était l'homme truqué était un personnage parfait pour parler de ça.
Et avec aussi un hommage à Maurice Renard à travers les sarments,
Les
ces espèces
servants,
de les servants,
les
oui, les
servants.
servants, ces espèces de petites bestioles, une sorte d'araignée
Alors,
qu'on voit pas, mais que l'homme truqué
voit.
voit. Ça
C'est
c'est
adapté
adapté d'une histoire
de Maurice Renard,
de
d'un autre.
Maurice
Alors, c'est
Renard.
adapté de ce qui est son meilleur roman, Le Péril Bleu, qui est paru en
Ah voilà.
1911 et qui est un très grand roman. Alors là, qu'on peut lire aujourd'hui avec sans aucune réserve. Le Péril Bleu, c'est vraiment un roman splendide. C'est l'histoire c'est une des plus étranges invasions extraterrestres qui existent. C'est l'histoire d'une civilisation d'arachnides, c'est-à-dire d'êtres araignées, invisibles, qui vivent à la surface de notre atmosphère comme nous vivons à la surface de la mer, nous les hommes. Et pour eux, l'atmosphère est une mer. Et donc ils pêchent. C'est ça qui est génial, l'idée. Ils sont sur leur vaisseau à 4000 mètres d'altitude et ils pêchent des hommes. Et donc, à fin d'étude, comme nous étudions les poulpes des grandes profondeurs. Et donc, il y a des disparitions inexplicables dans la campagne française, des objets, des êtres, des animaux disparaissent, on comprend rien, on appelle ça le péril bleu. Et l'histoire va être la découverte et l'exploration de cet univers aérien, et finalement le crash d'un vaisseau invisible en plein Paris, tout le problème de comment est-ce qu'on rend visible un objet invisible, la découverte des êtres qui sont à l'intérieur, enfin c'est un gros roman. Très fouillé, écrit d'une plume géniale, très allègre. C'est vraiment à lire, c'est un bonheur. Voilà. Et donc, on a imaginé rendre un double hommage, un triple en fait, parce qu'il apparaît lui-même en personne dans l'histoire d'ailleurs,
Aussi, effectivement.
à Maurice Renard, en utilisant l'homme truqué. Donc, l'homme truqué rentre à Paris, rencontre Maurice Renard qui se propose de devenir son biographe, celui qui révélera son identité héroïque au monde. Et la première affaire qu'ils ont à résoudre ensemble, c'est justement celle d'une toute petite partie de l'équipage arachnide original du Péril Bleu, qui a survécu à sa destruction de 1919, qui prolifère sous les caves du Grand Palais à Paris et qui essaye de reconstruire un vaisseau. Voilà.
Pourquoi ces histoires-là, Serge Lehmann, tu les abordes non pas par un roman, mais par la BD? Est-ce que c'est pour faire référence aux super-héros américains qui, eux, effectivement, passent par ce support-là, ce support fictionnel qui est la BD, l'art de la bande dessinée?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est une très bonne question parce qu'elle met le doigt sur un truc qui est compliqué pour moi, qui est que une grande partie de la pulsion créatrice qui m'a poussé à écrire de la littérature pendant à jet continu pendant 15 ans, disons, de 85 à 2000, a disparu. Parce que mes rapports avec le langage se sont terriblement compliqués. Et que j'ai perdu une grande partie du naturel et de la spontanéité avec laquelle j'écrivais quand j'avais, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Voilà. C'est devenu compliqué pour moi d'écrire. Sauf en bande dessinée. Non pas que ce soit plus facile, parce que mes dialogues sont vraiment pris comme des objets littéraires, mais quand j'écris un scénario, la prose a pour but de rendre visible au dessinateur ce qu'il doit dessiner. Voilà. Elle est purement objective et descriptive. Et les métaphores ont pour but de souligner un aspect subjectif ou poétique, charge au dessinateur de le mettre en scène comme il veut, par la lumière, par le cadrage. Par l'ambiance, enfin voilà, c'est bon. Je sais à quoi sert le texte. Pour écrire de la littérature aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc, et par ailleurs, écrire de la bande dessinée était une passion très ancienne, aussi ancienne que la littérature. J'ai été frustré pendant les années 90 de ne pas pouvoir en faire. Et donc, comme c'est devenu possible pour moi aujourd'hui, j'en fais beaucoup parce que c'est un grand plaisir. Donc voilà. Et puis enfin, sur cet univers précisément, effectivement, je reste persuadé qu'une le travail de création de monde, si tu veux, c'est-à-dire le fait de faire se rencontrer le Nyctalope de Jean de La Hire et Grégoire Samsa, comment dire, dans une bande dessinée, c'est plausible. Dans un roman, tout est possible, y compris dans un roman. Mais pour moi, à ce stade, ça demanderait des années d'angoisse sur comment je vais faire pour. Bon, donc plutôt que d'angoisser pendant des années, je m'amuse à faire de la bande dessinée.
Et pourquoi cette question théorique sur tout un pan de notre culture que nous aurions oublié, ces histoires de super-héros, cette origine de la science-fiction, pourquoi le mettre en scène, en fiction? Pourquoi est-ce que tu es attaché à utiliser ces théories que tu as développées et d'en faire avant tout une œuvre de fiction? De faire passer cette théorie-là par la fiction?
D'abord, je n'ai pas renoncé à la faire passer ou à la développer par l'écrit. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit de littérature depuis pas mal de temps maintenant, mais j'écris beaucoup d'articles et d'essais. Et j'ai en projet un livre qui serait, disons, une histoire de la science-fiction française, ou disons, de cet imaginaire-là, parce qu'il va beaucoup plus loin que la seule science-fiction. On y verrait aussi bien Bergson, Bachelard, Teilhard et Chardin. Bon, voilà, l'imaginaire scientifique au sens le plus large, quoi, la mythologie de cette époque-là. Donc j'ai pas renoncé du tout à parler de ça par écrit, enfin, sous forme de texte pur. Mais la brigade n'était pas qu'une, comment dire, c'est l'histoire de la fin des super-héros européens, c'est-à-dire c'est la mise en fiction d'une théorie, on va dire, d'histoire littéraire ou d'histoire culturelle. Mais dedans, il y avait bien d'autres choses dont je voulais parler, dont en particulier ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire ce trouble ressenti à la lecture des remarques de Steiner sur Kafka et Hitler, de qu'est-ce qui est vraiment mort à Auschwitz. C'est pas les super-héros qui sont morts à Auschwitz, tu vois, on s'en fout. Ce qui est mort à Auschwitz, c'est aussi une forme d'existence européenne. Quelque chose qui, aujourd'hui, quand on est un Européen et qu'on ne croit pas en Dieu, Auschwitz, c'est ce qui ressemble le plus à un temple. Tu vois, une chose sacrée, c'est la chose dont on ne peut pas douter. C'est ce qui nous définit comme Européens aujourd'hui. On partage ça. On est d'accord pour que ça n'arrive plus. On est d'accord pour dire qu'il y a des précautions à prendre quand on parle de ça. Tu vois, on fait attention. C'est un objet sacré. C'est ce qui nous réunit. C'était quoi l'Europe avant? Qu'est-ce qu'ils partageaient les Européens avant ça? Tu vois, donc c'est toutes ces questions-là que je me pose et qui traversent la brigade. Donc, à un moment, à la toute fin des années 90, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'écrire de la littérature à ce moment-là, j'ai rêvé d'aborder tout ça, tous ces thèmes, à travers un énorme roman qui devait s'appeler Métropolis. Je voulais parler de tout ça dans un seul roman. Voilà. Et j'ai travaillé dessus pendant 4 ans, et ça m'a rendu quasiment psychotique, quoi. J'ai pas réussi à écrire. Et ça a été un grand échec pour moi, vraiment un grand échec. Et donc je n'ai pas réécrit de fiction depuis, sous forme littéraire. Par contre, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai entrevu, toutes les intuitions que j'ai eues pendant ma période de travail en vain, de lecture, de surdocumentation, ça c'est ce qui me nourrit en tant que scénariste et théoricien depuis 10 ans. Voilà. En gros, le schéma créateur, c'est qu'à la fin des années 90, je me suis senti à l'étroit dans ce que je faisais, littérairement. J'ai décidé de faire un truc très ambitieux qui me travaillait depuis 2-3 ans. Parler de ça, parler de l'Europe, de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin du merveilleux, de l'hitlérisme, de Kafka, des logiques concentrationnaires, de la mythologie scientifique de l'époque. Je voulais aborder tout ça. Je me suis dit, il y a matière à faire un putain de roman avec ça. Et ça m'a rendu malade à la fois d'essayer de l'écrire et de ne pas arriver à l'écrire. Donc je vis de cette maladie-là depuis 10 ans. Et la brigade, elle en est un écho. C'est une des façons dont j'ai recyclé un fragment, si tu veux, des émotions de cette époque-là.
Merci beaucoup, Serge.
Merci à toi.